Hello à toutes et tous, et bienvenue dans une micro-série d'épisodes hors les murs du Tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. Avec Elio, acolyte et réalisateur technique de toutes mes envies, nous avons testé un nouveau format, une nouvelle manière de tourbillonner. Nous avons pris nos micros, nos idées et nos points d'interrogation pour s'installer au Carnaval Solidaire, festival étudiant, culturel et engagé sur le campus de la Doua. Un grand chapiteau bleu, des guirlandes de fanions, des tentes colorées garnies de bonnes choses, pour nourrir toute la foule venue sourire, respirer et vivre un peu au milieu de cet espace de liberté. Nous vous proposons ici de donner vie au Carnillon, deux tables rondes avec des bénévoles, militants et militantes pour penser de nouveaux possibles autour de la joie, de l'art, de l'engagement et, comme toujours, de l'amitié. Alors profitez de ces deux épisodes en plein dans l'ambiance, imbibés des bruits de répétition de concerts et des voix rocailleuses des courtes nuits, pour penser avec nous à un monde plus inclusif et plus lumineux. Dans ce premier épisode enregistré au début du festival, nous accueillons Cam, Noémie et Mélène, en début de soirée folk à quelques mètres du chapiteau. Nous décortiquons les dynamiques du festival, ce qui le fait exister et ce qu'il nous offre, pour vous donner envie, à votre tour, de vous engager. Hello à tous et toutes, bienvenue au quatrième épisode du Tourbillon, et on est dans un des épisodes un peu spécial en ce moment, parce qu'on fait des tables rondes au Carnaval Solidaire. Donc on est en direct du Carnaval, donc derrière on a des bruits de festivaliers, festivalières, peut-être à un moment on va avoir des bruits de bal folk, et c'est ça qui est trop chouette. Donc on est avec trois invités super, et je vais vous demander de vous présenter, en rapidement, comme vous voulez.
Ok, qui commence ?
Bah moi du coup c'est Noémie. Et je suis la présidente du Carnaval Solidaire juste pour cette année, parce que c'est une asso étudiante, donc c'est des mandats d'un an. Et je suis à l'INSA, je suis étudiante en ingénierie, énergie et environnement.
Du coup, moi, c'est Cam. Je gravite de façon de plus en plus éloignée autour du carnaval, parce que je suis une, ce qu'on appelle communément une vieille du carnaval, c'est-à-dire que j'ai été dans l'organisation de façon active du festival il y a quelques années. J'étais responsable logistique, après responsable LEC, et aujourd'hui je viens pour voir les copaines au carnaval. C'est un prétexte pour voir les copaines tous les ans, voilà.
Et moi, je m'appelle Mélène, et je me suis dans la même catégorie que Camille, c'est-à-dire que je suis un vieilleux du carnaval. Et maintenant, je continue à venir pour voir les copaines. J'ai fait partie activement, un peu moins activement que Camille quand même, mais de l'organisation du carnaval il y a quelques années. J'étais plutôt du côté de la technique et du côté de la bouffe. Et maintenant, je viens vivre sur le carnaval pendant une semaine tous les ans pour voir les copaines et pour voir ce beau festival.
Et est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous ou plusieurs, vous pourriez nous présenter justement le Carnaval Solidaire, l'asso et la semaine qui se déroule en ce moment ?
Ouais. Moi, je peux un peu parler du Carnaval à l'année, et si ça vous va, vous présenter un peu plus le festival. Du coup, le Carnaval Solidaire, c'est une association étudiante qui organise trois gros événements. On a une soirée pour la fête de la musique, donc le 21 juin, tous les ans. Je commence par ce qui arrive dans le mandat. Donc c'est la première soirée qu'organise le bureau et l'association. Et après, c'est la Toy Teuf. C'est une soirée qui se passe dans un bar à Villeurbanne. Et ensuite, c'est le festival. Et c'est une asso d'à peu près 30 membres. Et il y a, comme on disait, une communauté de vieilleux qui gravitent autour qui sont toujours là pour nous aider avec des conseils. Et je trouve que c'est une grosse partie de l'asso.
Tu veux continuer, Mélène ?
Ou j'embraye ? Vas-y, embraye.
Raconte-nous ce qu'on est en train de vivre cette semaine.
Alors, le Carnaval, c'est un joyeux bordel de plein de choses. Pour moi, c'est un bordel un peu organisé, mais en fait, le Carnaval, c'est un festival autogéré. Autogéré par des étudiants et étudiantes depuis 34 ans. Donc c'est un vieux truc qui se déroule sur un campus universitaire à côté de Lyon, à Villeurbanne, sur le campus de la Doua. Et c'est une asso qui, globalement, initialement, se donnait pour objectif de récolter... Alors, très très initialement, c'était un festival de cirque, il me semble, si je dis pas de bêtises. Après, ça a un peu évolué. Il y a toujours eu du coup un chapiteau, avant il n'y en avait peut-être pas, chapiteau qui restait plusieurs jours et qui était utilisé par d'autres associations aussi de l'INSA pour faire des conventions de jonglage, des trucs comme ça. Et l'association, alors s'appelait avant Carnaval Humanitaire, et avait pour objectif de récolter de l'argent pour en envoyer au Burkina Faso. On était notamment en lien avec une association sur place qui apportait, enfin qui en gros produisait des puits et tout. Bon. On a changé de projet et on n'est plus orienté là-dedans, et en vrai un peu heureusement parce qu'il y a un peu des relents coloniaux un peu merdiques là-dedans. Et depuis, le Carnat s'appelle le Carnaval solidaire. Et voilà. Mais du coup, j'ai pas du tout présenté vraiment ce que c'était. Mais...
si tu veux, je peux parler de la semaine.
Vas-y, si tu veux, ouais.
Bah, du coup, le festival, il se déroule sur une semaine. En journée, il y a des conférences le midi sur différents sujets avec des intervenants plutôt extérieurs au Carnat qu'on fait venir. Et après, il y a des soirées. Donc là, on est en plein milieu de la soirée Balfolk. Et il y a 5 soirées différentes. Il y a 2 soirées de concert. Une soirée Balfolk. Une soirée marmite, donc c'est une scène ouverte. Du coup, c'est un peu tous les gens qui veulent participer, qui peuvent. Une soirée, donc cette année, c'était théâtre et drague. Ça, c'est pas tous les... Enfin, ce programme, c'est celui de cette année, c'est pas tous les ans exactement pareil. Il y a eu une période où on faisait une journée art de rue, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai oublié de parler du défilé aussi, du jeudi après-midi, avec les écoles de Villeurbanne.
Dont tu reviens ?
Dont je reviens tout à fait. Cet après-midi, j'ai pris des belles couleurs dans ce défilé. Et donc, ça se déroule sur une semaine sur le campus de la Doua, comme disait Kem. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Oui, et donc Kem en a un peu parlé, mais donc les spectacles se déroulent sous un chapiteau. Et donc ça, c'est vraiment trop chouette. Ça apporte une ambiance carrément différente.
D'avoir ce gros chapiteau bleu juste à côté de nous.
Ouais, de ouf. Et puis en plus, il est beau comme chapiteau. J'aime beaucoup les chapiteaux, mais
un bleu, c'est classe. Ouais, il a des étoiles jaunes magnifiques.
Voilà. Ouais, il est très, 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 très beau. Avec ce super drapeau en haut.
Et après, on a un bar et une cuisine qui font de la vente. On a de la sérigraphie. La nourriture, on l'a fait nous-mêmes et elle est trop bonne.
Il y a de quoi faire la sieste et traîner toute la journée dans l'air.
Voilà, c'est ça. Après, je peux faire ma propre com. Il y a aussi un salon de coiffure parfois.
Et une radio.
Il y a une radio. Il y a un salon de massage. Enfin, il se passe plein de choses pour les bénévoles aussi.
Et c'est un festival. Il y a plusieurs festivals qui ont lieu sur le campus de la Doua. Et comme tu as pu donner les engagements humanitaires par le passé et solidaires aujourd'hui, qui est plutôt assez engagé et plutôt ancré à gauche.
Ouais, effectivement.
Vous pensez que les gens, le public en tout cas, ils viennent plutôt pour l'aspect festif, culturel, et ils découvrent qu'il y a de l'engagement, ou ils viennent parce que c'est engagé et qu'ils ont envie d'aller dans un environnement plutôt ancré à gauche et ils profitent par la suite? Qu'est-ce qui les fait venir, le public?
Moi, j'allais parler plus des étudianteux qui, je pense... trouvent que l'asso est vraiment une asso de gauche et viennent parce que leurs valeurs sont en lien, en tout cas.
Donc dans les bénévoles plutôt du festival ?
Dans les bénévoles et pour moi pas mal de festivaliers et festivalières étudianteux aussi. Pour moi, parce qu'on est vraiment perçu comme une asso de gauche, donc aller au Carnat, ça veut dire montrer que t'es un peu en accord avec les valeurs. Mais j'aurais dit que plutôt les autres personnes non étudianteux viennent pas mal pour la programmation et l'aspect festif, et puis une fois que tu viens, t'aimes bien l'ambiance et voilà.
Je pense qu'il y a aussi j'ai jamais été festivalière en fait du Carnat. Moi j'ai toujours été bénévole ou resp d'un truc au Carnat, donc je connais pas trop l'aspect et forcément c'est biaisé quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi parce que du coup le Carnat ça va faire 34 ans qu'il existe. Il est quand même, je pense, bien bien implanté dans le paysage culturel lyonnais, en vrai, dans un espace vert, ce qui est en vrai assez rare, je pense, les festivals comme ça en extérieur, surtout au mois de mars. Et donc, je pense qu'il y a un héritage et un truc qui s'est créé autour de ce festival qui fait que les gens viennent pour l'aspect culturel et après l'aspect militant. Alors, moi, personnellement, l'aspect militant, effectivement, il est présent au Carnat parce que c'est plutôt dans l'incarnation du fait qu'on fait des choses nous-mêmes et qu'on autogère beaucoup de choses et que les cantines qu'on fait, c'est un peu comme des cantines militantes, etc., dans les manières de faire. T'as un héritage aussi qui est de la débrouille, tout ça. Il y a des conférences le midi, etc. On réfléchit à la prog, etc., etc.
Tout est très réfléchi dans une dynamique précise, quoi.
Dans une dynamique précise, mais je pense pas non plus que le Carnat ce soit un espace purement militant au sens qu'on pourrait. Enfin, en tout cas, moi, je lui donne pas ce terme-là. Parce que je pense qu'à l'INSA, En tout cas, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont là, c'est encore des bébés néo-militants, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Voire même des néo-militants.
Ouais,
et
c'est ça.
Parce qu'il se passe quelque chose sur leur campus et donc c'est trop chouette de venir voir ce qui se passe. Moi, je sais, quand j'étais en première année, je suis venu juste parce qu'il y avait des gens, il y avait un chapiteau et il se passait des trucs et c'était en mode on va voir ce qui se passe, même si on ne sait pas ce que c'est, qu'on en a entendu parler vite fait, mais il y a un truc où on ne cherche pas forcément, on peut ne pas rentrer par le militantisme. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je suis arrivé d'abord en mode j'ai vu de la lumière et ça avait l'air sympa, donc je suis venu voir. Et ensuite, par des amis qui m'ont dit c'est trop chouette, viens, on va organiser un festival. En fait, comme disait Cam, on se sort les doigts et on fait des trucs nous-mêmes et on apprend sur le tas et c'est trop intéressant et on se forme à plein de trucs. Enfin, en fait, on en a des exemples avec plein de vieilleux dont c'est soit des activités qu'ils font bénévolement ou de manière professionnelle, mais en tout cas, il y en a plein qui ont appris plein de choses sur le Carnat et qui maintenant s'en servent de ouf, quoi.
C'est une porte d'entrée un peu tremplin vers plus d'engagement et d'action.
Ouais. Et du coup, ça te fait aussi découvrir le monde du militantisme pour une certaine partie des membres, je pense. Et c'est trop chouette, ce truc-là aussi, quoi.
Je pense que, ouais, t'as un truc de réseau, parce qu'en fait, si tu regardes quotidiennement, en fait, ce que le Carnat fait, c'est de la culture. Je pense que tu peux considérer que la culture, elle est militante et il y a une manière de faire la culture et de la programmer et tout. Et donc, je pense que oui, on peut considérer ça, le fait de réfléchir, là depuis plusieurs années, il y a une réflexion vraiment qui est faite sur les artistes qu'on programme. Le fait de programmer des meufs, des personnes queer, des personnes racisées, pas forcément valides aussi. Et du coup, c'est un truc qui réfléchit. Après, je ne crois pas qu'aujourd'hui, par exemple, le projet... Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, je sais pas quelle place aujourd'hui le projet que porte le Carnat a aujourd'hui dans l'assaut. Mais peut-être, je sais pas,
je pense qu'il a une moins grosse place que c'était il y a quelques années.
Tu peux nous expliquer du coup quel est le projet aujourd'hui ?
Oui, carrément. Cette année, on donne de l'argent à l'association Classe, qui est une association qui accompagne les familles à scolariser leurs enfants, les familles vivant en squat, en situation de précarité. Et en fait, l'objectif, c'était d'avoir aussi une relation, un accompagnement humain, en fait, beaucoup plus que juste financier. Mais on n'a pas réussi à le mettre en place comme on voulait. En fait, cette asso, elle fait des ateliers tous les samedis avec les enfants, justement, pour leur réapprendre un peu les codes de l'école. Et c'est un peu dommage parce qu'on n'y a pas été autant qu'on voulait. Je ne sais pas les détails, mais on a eu beaucoup de déménagements de caves et tout ça à faire. Et donc, on n'a pas forcément eu le temps les samedis d'y aller. Mais c'était ce qu'on voulait faire. Et je pense que c'était ce qui était plus fait puisque vous y alliez.
Bah, moi, franchement, j'ai pas suivi, j'ai pas connu le projet précédent. Il y avait effectivement des gens qui allaient sur place au Burkina et qui avaient des liens avec je me souviens même plus le nom de l'asso.
Je n'ai pas non plus.
Shame on me. Mais je pense en tout cas qu'il y a eu une envie aussi du fait de réancrer aussi un projet au niveau local, justement pour avoir des liens. Et moi, j'ai l'impression plutôt de l'extérieur qu'au contraire, moi j'ai suivi vraiment de loin en tant que vieille que vous aviez des ateliers de façon régulière quand même, un peu, où vous avez participé, non ?
Personnellement, je suis allée à un atelier et je sais que c'est à peu près tout ce qui s'est fait. Mais par contre, on les invite sur le festival. Donc
Hier, ils sont venus se performer à la scène verte.
Exactement, ça c'était une première, parce qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille avec ELU. Et cette année, pour la marmite, il y a un groupe de jeunes filles qui est venu performer à la marmite notre scène ouverte. Et c'était la première fois qu'on faisait ça et c'était vachement chouette. Là, on a senti qu'on donnait un peu plus... que juste une part des billets, quoi. Et
puis en plus, pour avoir été avec elle, avec les filles en loge, concrètement, ça faisait un échange, un partage super chouette. C'était que des ados qui parlaient pas toutes très bien français, qui étaient surexcités, mais qui avaient aussi plein de petits trucs à gérer. Enfin, on s'est coiffé ensemble, on a discuté ensemble, et c'était un vrai échange que qui n'était pas juste bon bah là je vais monter sur scène, mais c'est tous les autres, c'est mes amis, on vient des mêmes milieux, on vit la même chose. Il y avait un truc oui. que la danse ou l'art peut permettre qui était chouette.
Oui, rien qu'aller voir sur scène, enfin moi j'ai trouvé que elle shinait, je sais pas comment le dire autrement, mais
elle brillait.
Voilà, elle brillait et j'avais vraiment l'impression que c'était une opportunité pour elle de voilà de voir ce que c'était de monter sur scène, et ça m'a fait vachement plaisir, et je crois que ça a fait plaisir à l'asso aussi.
C'était chouette.
Et est-ce que cette année, il me semble, classe, est-ce que intervient encore pour faire une conf
oui.
dimanche
pendant samedi midi, ce qui est prévu, c'est que ils vont venir avec des familles et qu'il va pouvoir y avoir un échange. Elles vont présenter l'asso d'abord, et ensuite on va avoir un échange qui sera possible avec les familles qui viennent pour voir un peu plus concrètement ce qui est fait, et puis pour rencontrer les familles, quoi.
Super bien. Ah, on commence à entendre le bad folk.
Et parce que là, vous essayez. Enfin, du coup, il y a deux éléments qu'on soulève. C'est l'idée de vouloir faire vivre le Karna, de passer du milieu étudiant à autre chose, d'avoir un vrai échange avec les projets, etc. Mais rien qu'au sein des étudiants. Pourquoi, toi, surtout Noémie, qui est là cette année, qui est encore sur le campus, comment est-ce que tu trouves que le festival s'implante vraiment auprès des autres étudiants et étudiantes? Est-ce qu'il y a un truc très. Comment dire? Ils font leur truc dans leur coin et c'est super, ou il y a vraiment justement des étudiants qui seraient pas du tout engagés qui viennent et il y a quelque chose qui se crée, ou ça reste quand même dans un entre-soi un peu plus
Au niveau de l'organisation, vraiment les membres de l'association qui organisent à l'année, c'est quand même vachement un entre-soi, c'est que des copaines, et on recrute en début d'année, mais tout le monde rentre dans l'organisation, et après on reste pas mal entre nous parce que tu commences à prendre des responsabilités et avoir quelqu'un qui... Bah, en vrai ça se fait beaucoup, des personnes qui débarquent en milieu d'année pour filer un coup de main, ça c'est chouette aussi, mais c'est souvent des copaines qu'on ramène, c'est très peu de personnes qui sentent qu'elles peuvent juste débarquer et venir filer un coup de main. Mais par contre au niveau du bénévolat, c'est sûr que ça crée une ambiance où des gens se disent ah oui c'est vrai, c'est le festival où il y a le chapiteau au milieu du campus, j'aimerais trop voir ce que ça donne, et puis ça donne envie, là tous les midis on vend de la nourriture, c'est ouvert sur les cuisines, tu vois vraiment concrètement ce qui est fait, et donc c'est vrai que je pense que ça crée un peu une effervescence au sein des étudiantes pour ce bénévolat, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Après, il y a un truc, ça fait peur de rentrer dans le local du Karna quand même, quand on ne connaît pas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui rentrent avec quelqu'un d'autre. C'est quand même vachement plus facile quand quelqu'un te prend la main et te dit « Viens, on va voir, ça va être chouette. » Il va y avoir plein de gens qui vont discuter, plein de gens qui vont prendre la parole. C'est pas grave si tu dis rien, tu as le droit d'être là et c'est trop chouette d'être là. Mais moi, je pense que j'aurais pas été capable de rentrer seul dans le local du Karna. Pourtant,
mais moi, je ne l'ai jamais fait non plus. Hein.
Pourtant, on était déjà intéressés par l'asso. En tout cas, pour ce qui s'est passé pour moi, j'étais déjà intéressé par l'asso et je connaissais déjà des gens dedans. Mais je me serais pas motivé à me dire, vas-y, je vais voir ce qui se passe pour de vrai. Et il a fallu que quelqu'un me dise, enfin, genre qu'on sorte du même endroit ensemble et qu'on me dise, eh, viens, je vais au local du Karna maintenant, tu viens avec moi. Et qu'après, on me dise, enfin, genre presque, je me suis senti. Pris par la main et accompagné, quoi.
Mais en ce moment, particulièrement dans nos temps de montée de l'extrême droite, etc., on parle beaucoup d'engagement, d'importance de s'engager, etc. Et même moi, dans ma vie personnelle, j'ai plein de gens qui me disent « Oui, mais en fait, moi, je vois les actions militantes qui sont montées, les actions qu'elles soient engagées culturellement ou autres, mais en fait, comment on fait ?» Et comme le dit très bien Mélène, c'est même avec toute la bonne volonté du monde, surtout quand on est jeune et qu'on a toutes ces questions de légitimité. Enfin, en plus, on rentre pas toujours dans tous les... Quand on fait partie de minorités, d'oser rentrer dans un local d'assaut, d'aller à une réunion seule, c'est hyper difficile et hyper compliqué. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement à ces gens-là, que en vrai ça va bien se passer, même si les premières minutes peuvent être un peu très isolantes?
Alors je pense que, alors moi je vois plusieurs trucs, du coup je vais pas répondre complètement à ta question une première fois, mais je vais essayer de répondre à celle que t'as posée avant, à laquelle Noémie et Mélone ont très bien répondu par ailleurs. Alors, je pense que le Karna, effectivement, ça reste comme beaucoup d'associations. Donc, le campus de l'INSA a énormément d'associations. C'est vraiment une chance de zinzin qu'on ait autant d'argent public pour ce secteur associatif-là. D'ailleurs, c'est en train de réduire de plus en plus de réductions budgétaires de partout, mais je vous apprends rien. et pas que pour le modèle associatif, de façon générale, même pour des étudiantes qui galèrent à se loger, à se nourrir, etc. Bref, on vit quand même dans, à l'INSA dans un espace qui est quand même assez privilégié. La majorité, une bonne partie des étudiantes viennent quand même de classes bourgeoises, enfants, fils d'ingés, de CSP+, etc. Donc il y a quand même un énorme privilège là-dedans. Il y a aussi un énorme privilège dans le fait de pouvoir faire un festival comme ça et d'avoir accès à autant de matos, d'argent, etc. Enfin, je veux dire, là, l'espace qu'on occupe, on le loue pas. L'électricité, elle est gratuite. L'eau aussi. Enfin, c'est
vraiment point de vue temps accordé. L'INSA offre, enfin propose des absences autorisées, etc. C'est pas des gens qui. Il y a des gens qui prennent des congés, mais la base, c'est pas le cas.
C'est ça. Et puis il y a aussi le fait que voilà, la majorité des étudiantes qui sont à l'INSA, c'est pas des personnes qui ont besoin de travailler à côté de leurs études pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc bref, moi je vois ce truc là, mais du coup c'était quoi la question initiale? C'était
qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui justement, même en ayant ces privilèges là, se disent je suis pas légitime ou...
Ouais. Alors du coup, voilà, ce que je voulais dire, ce vers quoi je veux aller. Je pense effectivement que le Carna c'est une asso qui est hyper bien et hyper nécessaire, justement pour politiser les gens, les jeunes, les étudiantes, même si effectivement c'est compliqué de réussir à toucher tout le monde et forcément t'as un peu un développement d'entre soi parce que on est aussi une école d'ingé, que ça fait peur, etc. Et aussi parce que l'INSA est en réalité pas très très ouvert sur le monde extérieur. Mais c'est des choses qui changent et qui évoluent. Et je pense que cette impression, je l'ai aussi à cause du fait que moi, je suis une génération Covid et que il y a eu vraiment une fermeture sur nous. Mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. En tout cas, je pense que le Carna rayonne beaucoup plus maintenant à l'extérieur et qu'on arrive à toucher des étudiants aussi d'autres campus. C'est aussi lié au fait que je pense que Lyon 1 est un campus un peu excentré par rapport à d'autres. Voilà.
Et avec beaucoup d'infrastructures aussi
et qui est très très étendue, donc c'est aussi plus compliqué je pense pour s'organiser, etc. Déjà ça, et après malgré tout je pense que le Carna ça reste une asso intéressante et chouette parce qu'elle permet du coup à des gens d'avoir accès, on va dire, à la politisation, d'avoir des lieux comme ça dans lesquels tu peux t'organiser. C'est une énorme chance de pouvoir avoir accès à des locaux, etc. Là-dessus. Se politiser aussi du fait que en réalité le monde de l'ingénierie et l'ingénierie n'a aucune tradition de lutte et n'a aucune tradition comme le mouvement ouvrier, et du coup je pense que c'est un peu cool d'avoir ce genre d'espace pour te permettre d'accéder à ça et te rendre compte de ça, surtout quand tu viens je pense d'un milieu plus privilégié. Donc ça crée... bref, voilà, je vous ai tunnelisé là-dessus.
C'est super intéressant.
Mais du coup, pour dire aux gens de venir... Bah, alors moi, je pense que oui, ça fait extrêmement peur quand t'arrives dans un local d'assaut et que tu connais personne et t'es un bébé. Forcément, t'as peut-être des difficultés à lier des liens sociaux et tout, à nouer des liens sociaux. Et ça fait peur aussi quand t'arrives dans un espace où tu vois plein de gens qui se connaissent entre eux et entre elles. Mais en fait, je pense que c'est le cas dans tous les milieux, en réalité, militants et associatifs. Et encore, je trouve qu'au Carna, on est plutôt très ouvert là-dessus parce qu'il y a certains milieux qui sont très fermés et très sectaires. Et je ne pense pas, en tout cas de mon expérience, que le Carna... Alors, c'est dur de s'intégrer et de se faire des potes et tout, mais je pense que c'est beaucoup moins sectaire que d'autres milieux. Et par ailleurs, il y a un énorme effort qui est fait de plus en plus là depuis plusieurs années, notamment avec la com sorcière, etc., qui est fait par le Carna pour inclure les gens. Voilà.
La com sorcière, c'est la com de la commission qui s'organise de la prévention et la réduction des risques sur le lieu du festival.
Et
qui gère les questions.
Et dans l'association toute l'année aussi.
Ouais. Mais tout ce que tu dis justement sur tout le travail qui est fait, il y a aussi le fait que comme c'est étudiant, comme le disait Noémie, les mandats changent tous les ans, donc les équipes évoluent beaucoup, contrairement à d'autres assos qui sont plus étudiantes où il y a des personnes qui peuvent rester très très longtemps et là rester dans un énorme entre-soi. Et toi Mélène ou Noémie, vous aviez un truc à dire là-dessus sur comment rendre tout ça un peu plus accessible ou que ça fasse moins peur aux personnes, que ce soit au Carna ou ailleurs?
Moi je voulais juste rajouter que très concrètement dans nos réunions, en fait c'est tous les lundis soirs, et en fait après on propose un repas parce qu'on a de quoi cuisiner au local, et donc souvent en fait ça peut être juste sympa de venir pour la réu. Si tu viens en début d'année, elles sont souvent moins longues que quand on s'approche du festival, mais qu'après rester discuter, en fait c'est un moyen de rencontrer facilement les gens de l'asso, et donc de juste de discuter en fait, et parce qu'en réu au final c'est difficile de se sentir inclus ou incluse, alors que
Voilà, ça permet le repas de pouvoir discuter. Et je voulais aussi rajouter qu'on a une politique au Carnat qui dit qu'en fait, tu t'investis comme tu le sens, comme tu peux. On a beaucoup de différentes commissions qui gèrent différentes choses, donc la bouffe, les lecs et tout. Et c'est pas la même taille d'investissement. Et on est vraiment vachement, on essaye d'être vachement ouverte sur le fait de. Tu t'investis comme tu peux en fait, et si au milieu de l'année bah, tu le sens plus, bah, tu le sens plus et on s'arrangera. Et pour moi, ça peut un peu enlever de la peur de venir s'investir à l'assaut.
Oui, il y a un truc de se dire que tu peux venir et juste assister à ce qui se passe et ne pas prendre de responsabilité, et c'est carrément ok. Quoi.
C'est déjà beaucoup aussi.
Là. Oui, c'est ça.
Oui, on a des personnes qui assistent aux réunions toute l'année et qui sont juste bénévoles au final sur le festival, comme les autres personnes qui n'ont pas assisté aux réunions, mais ça suffit largement.
C'est une asso étudiante qui va un peu au-delà, enfin, comme vous avez pu expliquer un peu le système des VLE qui reviennent, même si c'est une association qui est chapeautée par l'INSA Lyon, il y a plein de personnes qui ne sont pas non plus de l'INSA, enfin, c'est quand même, même si ça reste en majorité autour de ça, il y a quand même plus d'ouverture. Et justement, là, quand on parle à des gens qui ne sont pas forcément dans ces milieux-là, du militantisme, de l'action, de l'engagement, ou même du bénévolat en général, on a un peu plutôt l'image du fait que c'est hyper chronophage, ça prend beaucoup d'énergie, c'est faire beaucoup de choses très reloues. Et toi, Noémie, tu soulignais que bah, c'est aussi prendre des repas et passer des moments chouettes. Comment on voit la place de la joie et de l'aspect agréable, et aussi pour individuellement d'être dans ces espaces-là?
Moi, je sais que j'ai d'abord voulu faire ce rôle parce que je savais que ça voulait dire que j'allais être présente toute l'année et que j'allais voir toutes mes copaines très régulièrement au final. C'est pour les jantes au final que je l'ai fait. Parce que du coup, moi, je suis arrivée l'an dernier. L'édition du Carnat, c'était ma première édition. Je connaissais vraiment très peu de personnes. Et au cours de la semaine, je me suis dit, ah, mais j'ai juste envie de m'investir parce que je m'amuse, quoi. Parce que là, sur tout le festival, c'était vachement épanouissant pour moi. Et du coup, de le refaire toute une année en sachant que je vais prendre des responsabilités qui, en fait, sont pas tant effrayantes, juste qui vont me faire kiffer parce que je vais pouvoir profiter de super moments. C'est pour ça que je l'ai fait à la base, c'était pour les personnes et c'est ce qui s'est passé en fait au fil de l'année. J'ai juste donné mon temps parce que j'appréciais ce que je faisais et plus que de savoir qu'il fallait le faire, que c'était voilà, il y avait des deadlines et qu'il y avait des choses à remplir, c'était juste parce que ça m'amusait de le faire avec les gens, de faire des réunions, de passer des week-ends à déménager des caves, à réparer des trucs. En fait, c'est juste pour le kiff.
Je continue.
Ouais. Vas-y.
Non, mais alors oui, effectivement, il y a des aspects qui sont un peu chiants et ça peut paraître rebutant pour certaines personnes de s'investir parce que c'est effectivement du travail bénévole, c'est du travail gratuit, etc. Machin. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs là-dedans. Moi, je pense à la communauté. Que perso j'ai développé, aux groupes d'amis, aux copains, aux liens que j'ai créés qui sont très très forts. Je pense que c'est aussi parfois des moments que tu vis qui peuvent être difficiles dans la douleur, mais aussi des moments très chouettes. Enfin, il ne faut pas voir que l'aspect négatif, je pense, enfin que l'aspect positif. L'aspect négatif, il fait aussi partie du truc et il permet aussi de créer des liens très forts. Moi, je sais que mes colocs aujourd'hui que j'aime très très fort et avec qui je vis, on a été au bureau du Carnat ensemble. Et on a un lien très très fort qui s'est créé avec ça, et je pense que c'est un lien unique en fait de ce fait-là.
Et comment il émerge ce lien justement ?
Dans
la douleur et là.
Ouais. Non, je pense que c'est le fait de faire des choses ensemble. Il y a le fait de faire des choses avec ses mains, truc que je trouve au Carnat et qui moi me explose un peu mon cerveau. T'arrives en réu, tu sais pas quoi faire. T'es un peu timide, t'oses pas trop, machin. Mais en fait, on va te mettre soit des outils entre les mains, soit des ustensiles de cuisine, et tu vas faire des choses avec des gens. Et ça, c'est beaucoup plus facile, je trouve, personnellement. Enfin, moi, ça m'aide beaucoup pour créer du lien social, de faire des choses avec des gens, avec mes mains. Et c'est un truc qui est présent extrêmement au Carnat. C'est-à-dire que les nombreuses motifs qui sont organisés, comme dit Noémie, les motifs caves, les motifs...
Donc les motifs, ça veut dire que tout le monde se motive très très fort à faire quelque chose qui n'est pas très agréable, mais ça va être chouette quand même.
C'est ça. C'est puis c'est pour un objectif commun aussi. C'est aussi pour... je pense par exemple, moi il y avait des motifs qui me faisaient chier de ouf, genre prendre soin des tentes et prendre soin du matos élec, mais en fait c'était des trucs qui étaient nécessaires et on savait qu'on allait en être content après parce que du coup ça allait bien rouler sur le carnat. C'est aussi des prétextes pour apprendre énormément de choses.
Exemple tout bête, moi j'ai appris à souder des sardines pour les tentes pendant une déter, c'était super intéressant.
C'est en fait le carnat, c'est un espace de transmission entre des gens. Je pense qu'il remplace un peu certains espaces de transmission intergénérationnelle, le bricolage qu'on avait avec le papy dans la cave, etc. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Mais pour moi, il y a aussi de l'apprentissage collectif et pas juste de la transmission. Il y a un truc de... Des fois, on est quatre autour du truc et on ne sait pas comment on va le faire et on y réfléchit ensemble. Alors des fois, on y réfléchit longtemps. Et des fois, on n'a pas la meilleure solution. Mais en fait, il y a un truc de trouver la solution ensemble qui est trop enrichissant.
Oui. Et en fait, c'est dans les galères où, du coup, forcément, tu as du stress à côté, mais tu as aussi le fait de réfléchir à plusieurs à la solution et d'être extrêmement content quand, du coup, tu as trouvé un truc.
Le résultat, après, tu es là genre, waouh. Et ça, en fait, tout le festival, c'est un peu ça. Il y a quand même un truc, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi, j'ai eu des soirs à la fin de la soirée ou plutôt au démontage aussi, de me dire, attends, mais toute cette semaine, c'est nous qui l'avons organisé, genre nous, avec nos petits bras, nos petites mains, alors qu'au début de l'année, on savait pas qu'on allait y arriver et que... Les trois quarts, j'en sais rien, je sors ça de mon chapeau, mais genre quasiment tous les trucs qu'on a fait, on savait pas les faire il y a quelques mois, et ça c'est trop bien d'apprendre
ensemble.
Puis même
ensemble, si quand même tu disais qu'effectivement il y avait énormément d'avantages et de privilèges du fait d'être dans cet espace là où tout est gratuit, etc., enfin beaucoup de choses, moi j'ai eu un moment pareil cet après-midi où j'étais derrière la tente cuisine et je me dis ils ont construit une cuisine quand même là c'est vraiment une pelouse, enfin on a, alors qu'il y avait, il y a plein d'autres manières de faire qui pourraient être peut-être plus coûteuses mais plus rapides. On aurait pu faire venir des food trucks, on aurait pu dire que tant pis, on achètera tout fait et tout est fait et de A à Z, et le repas qu'on mange, en fait les carottes, elles sont arrivées entières.
Ce truc là effectivement, moi j'en ressors une fierté immense, et j'en ai ressorti une fierté immense aussi, et je pense que c'est peut-être ce que tu vis maintenant, Noémie. Enfin, moi je sais que j'avais les étoiles dans les yeux quoi, quand j'ai sorti mon premier carnet de terre avec les copaines. Une satisfaction énorme à se dire, mais en fait là, tous ces trucs qu'on en a chié, on voit des gens tellement heureux et heureuses d'être là. Et effectivement, je pense que t'as pas du tout la même satisfaction. Il y a un truc que tu ressens, moi, que j'ai ressenti aussi beaucoup dans le corps, quoi, l'épuisement.
Il y a un truc qui va au-delà.
Pas très sain, mais
il y a quelque chose qui va au-delà de l'individuel aussi. Moi, j'évolue je fais mes études dans un milieu qui est pas du tout associatif, qui est pas du tout engagé, et qui est pas du tout dans une idée de collectif. Et pourtant, quand je dis que je suis sur ma semaine de révision, je vais aller, cet après-midi, j'ai mis du double face pour pas que les gens soient en train de danser en face de nous au balfolk tombe, et on me dit mais pourquoi tu fais ça, parce qu'en plus moi j'aime pas trop le balfolk, donc je sais que je vais probablement pas y aller. On me dit mais c'est débile. Bah ouais, mais en vrai c'est quand même super cool de se dire que là la satisfaction elle est pas que pour moi quoi. C'est trop chouette là, et les gens qui sont devant, je me dis pas ils vont se faire une cheville, ils vont finir à l'hôpital parce qu'ils ont voulu danser quoi. Et moi en vrai ça m'a pris 1h15 et j'avais pas grand chose d'autre à faire, et puis au pire c'est pas grave. Et j'ai passé un moment assez sympa, c'était les balances. Et aussi, je pense qu'on peut se dire que les moments relous, en vrai, ils sont pas si relous que ça.
Ils sont moins relous,
En fait, ils sont moins relous qu'on le pense.
Aussi ça. Parce que tu peux avoir des moments où t'es dans le stress et tu gères un truc tout seul. En vrai, moi, ça m'est arrivé, c'est beaucoup moins rigolo.
Mais plus t'as de responsabilité, plus c'est...
Voilà, mais en fait, quand t'es plusieurs à faire un truc, tu passes ton samedi à moqueter le chapiteau. En fait, on est tous là, assis par terre, on se file le scotch et c'est un moment convivial et c'est vachement fun.
Et je trouve en tout cas que c'est une manière de reconnaître, d'apprendre à connaître des gens aussi, qui est hyper chouette, le carnat. Il y a des liens en tout cas très très forts qui se construisent, je pense, pendant ce festival, des amitiés très chouettes. Et la convivialité.
Devenir ami en faisant des choses, ça change quelque chose de fou, hein, quand même.
Ouais. Moi, ça m'enlève les barrières de waouh, telle personne est trop stylée, je pourrais jamais aller lui parler. Et en fait, là, je coupe des patates avec elle et forcément, tu discutes et ça dédramatise un peu le truc. Et moi, ça m'aide de ouf.
Tu veux dire qu'après, on est plus stylé, c'est ça?
Ouais.
Couper des patates, c'est fini. on est aussi un peu obligé des fois d'accepter ses failles, quoi. De justement, il y a quelqu'un de tout super stylé et là, cette personne dit, est-ce que tu peux m'expliquer parce que moi je sais pas faire ça. Mmh. Alors que quand on est que dans de la parole et dans de la rencontre de surface, même si on peut parler beaucoup, en fait, c'est que de la parole. Et là, on voit vraiment comment on évolue les uns avec les autres.
Et justement, je trouve que par rapport à ça, le Carnat, c'est un espace hyper chouette d'un point de vue transmission. Enfin, encore et toujours, je presse ma paroisse, mais prêche ma paroisse. Il y a vraiment ce truc-là de... Moi, en tout cas, j'ai l'impression que le Carnat, c'est un espace où moi, j'ai appris à dire que je ne savais pas les choses, à demander à des gens qui puissent m'apprendre les choses, à oser, ouais, voilà, ne pas savoir et apprendre. Et il y a vraiment ce truc qui revient en permanence, hyper bienveillant, notamment des vieux, des vieilles. Ouais, c'est normal, si tu fais une erreur, en fait, c'est normal. T'es nouveau, t'es nouvelle, t'apprends. Bon. Et là, du coup, Noémie qui est en mode, ouais, non.
Ça dépend.
Statistiquement,
mais,
ça dépend.
Mais ça dépend de l'erreur.
Les vieux casse-couilles aussi, mais.
Voilà. La vérité, mais... les vieux, ils ont fait plus d'erreurs que nous. Hein.
Ouais. Oui, sûrement.
Mais... Bah, ils sont plus vieux, ils ont plus le temps de faire des erreurs.
Ouais, c'est
en vrai, moi, j'adore les vieux parce que je trouve que, exactement, vous savez tellement de choses et c'est super intéressant d'apprendre. Il y a certaines situations où c'est amené maladroitement et quand t'es stressé c'est dur à apprendre mais c'est normal et en vrai pour tout ce qu'on apprend moi ça me dérange pas quoi.
Et en plus je trouve que ça moi de ce que j'observe parce que je suis pas du tout dedans à l'année il y a un truc de transmission qui vient un peu enlever toutes les barrières qu'on a dans notre société très agiste etc. Je trouve qu'on arrive à avoir des idées de que les vielleux arrivent à être aussi hyper fiers de ce que font les plus jeunes et que en fait il y a des plus jeunes moi j'ai des personnes même qui sont dans ma famille et qui sont extrêmement jeunes au Carnat et on se dit wow, mais il y a un premier truc hyper très classique et très très oppressif de dire oui mais ils sont hyper jeunes, ils vont se planter, c'est nul, et en fait ça te bouleverse un peu dans ton esprit. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus vieilles et qui portent justement un regard hyper bienveillant qui est pas vraiment le regard qui est porté sociétalement. Cet après-midi il y avait, enfin, j'ai vu plein d'échanges comme ça entre des vielleux qui étaient présents, mais dans un truc de backup et de je peux soutenir et je peux écouter, je peux être là. Et en fait, si t'as pas besoin de moi, ben, je viendrai pas. Et je trouve que ça enlève un peu toutes les idées qu'on a ou qu'on peut avoir au sein de nos familles ou d'autres espaces de quand il y a des vieilles personnes, même si les vielleux ils sont pas si vieux que ça non plus, hein, faut aussi. puisque le Carnat n'a pas non plus 102 ans. Quand t'écoutes tout ça, de se dire bon, bah, en fait, oui. La différence générationnelle, elle peut être hyper vertueuse. Et ça veut pas dire qu'on va écouter les plus âgés et qu'ils vont rien remettre en question.
Mais je pense que ce truc de soutien, c'est quelque chose qui est hyper nécessaire, qui, moi, en tout cas, m'a soulagée beaucoup, beaucoup. Ça te donne énormément confiance aussi, je pense. Enfin, moi, mon année, en tout cas, c'était le cas. Et du coup, il y a ce truc que j'ai envie de dire, en fait. Mais oui, bien sûr, c'est une dinguerie ce que vous avez fait. Vous êtes super fort, super forte. Enfin, tout roule, quoi. Tranquille, en fait.
Puis voir les plus jeunes faire des choses, ça réalise que toi, t'as fait aussi.
Ouais.
Et nous, ça fait tellement plaisir quand il y a un ou une vielleux qui vient nous dire bah, c'est super, ouais. Ça avance super bien, ça marche bien. Parce qu'en vrai, on ne sait pas trop ce qu'on fait et on doute de ouf et ça fait vachement plaisir.
Maintenant, dans la vie, on ne sait souvent pas trop ce qu'on fait. Hein.
Mais oui, oui.
Mais c'est ça.
Mais là, c'est une énorme dinguerie. Hein. Cette année, c'est un hyper beau Carnat, quoi. Genre, c'est vraiment. Il y a là autour de nous, pour vous décrire un peu, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont l'air d'être très, très chouettes, très heureuses eux, d'être là.
Et de manger très, très bien surtout.
Ouais, et ça fait plaisir quoi. Enfin, moi en tout cas, de mon regard très extérieur, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu trop de gros problèmes. J'ai l'impression que vous avez globalement tout bien géré.
Et là, dans sa tête, Noémie, elle est en train de faire la liste de tous les problèmes qu'elle a depuis 5 jours.
Mais
la
prog, elle est.
Oui, c'est ça, c'est
genre
pas visible quoi.
Mais
enfin, ça va, en fait, ça va.
Ouais. Et
en fait, le Carnat, je trouve que c'est un lieu d'apprentissage énorme pour organiser d'autres trucs, d'autres festoches, pour savoir gérer du matos, pour savoir gérer de l'élec en festival, pour savoir gérer plein de choses, énormément de ressources qui sont hyper précieuses. Et ça te développe une débrouillardise de zinzin, quoi. Oh, je suis
là,
tellement
ce que reconnaissante. Vous dites depuis le début aussi qu'on fait des choses à plusieurs, qu'on ne sait pas, etc. C'est que... faire le lien avec ce qu'on disait, que c'est hyper intimidant d'entrer dans un local, etc. En fait, tout le monde a commencé quelque part. Hein.
Ouais.
Quand on a beaucoup, beaucoup d'années derrière nous, on peut avoir tendance à l'oublier ou pas le souligner, mais tout le monde a commencé en faisant n'importe quoi, ou même dans des points de vue plus administratifs, tout le monde a planté des demandes de sub, tout le monde a hyper mal écrit ses mails, tout le monde, mais c'est le principe, mais il faut commencer quelque part, quoi.
Il faut commencer quelque part, et globalement, ça va, en fait. Enfin, en tout cas, je pense, pour le Carnat, c'est une chance inouï d'avoir autant, déjà toutes ces archives, toutes ces ressources. Enfin, au Carnat, vraiment, on note tout.
Ouais. C'est très impressionnant.
C'est extrêmement bien documenté. Moi, j'ai jamais vu un truc aussi bien documenté. C'est-à-dire que on a un wiki et dedans, tu cherches. C'est une encyclopédie du Carnat, quoi. Ce truc-là. Et je pense qu'il y a ça. Il y a la transmission orale aussi.
Les passations, hein, ouais. Chaque fois qu'on change de team, en fait, on fait une passation pour expliquer tout ce qui s'est passé dans l'année. Et certaines commissions en font tout au long de l'année. La logistique, ça a été super parce qu'au fur et à mesure de leur échéancier, bah, ils ont eu des nouvelles passations orales. Et ça aide de ouf parce que c'est extrêmement concret. Tu peux direct savoir ce qui se passe mal.
Puis là, comme tu disais avant que dans les trucs de bricolage, ça prenait un peu la place du papy qui t'apprenait à bricoler dans ta cave. On manque parfois un peu de ces trucs-là de ressources, de se dire « Ah, mais j'ai pas eu la recette de lasagne de ma grand-mère, etc. » Au Carnat, il y a tout. Ouais. Y a la moindre recette existe. Et pour l'anecdote perso, dans un événement pas du tout militant, mais amical, je voulais faire du vin chaud et tout le monde me disait « Mais pourquoi tu prends pas la recette du Carnat ?» Mais on peut en faire une autre. Il y en a une qui est écrite et qui fonctionne.
Oui, je pense que... Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens, vu que le Carnat, ça fait 30 ans qu'il existe, qu'il est au même endroit, il y a un truc un peu de... Pas de perfectibilité, forcément, il y a des choses qui bougent, qui évoluent et tout, mais il y a des recettes aussi qui marchent bien. Je pense à la manière dont la cuisine est implantée, par exemple. Oui. Je pense à la manière de gérer certaines choses, des partenariats aussi qu'on a depuis très très longtemps avec des structures qui existent, et ça ne veut pas dire que ça ne doit pas évoluer.
Oui, mais... J'allais rajouter que du coup, ça rajoute un peu de frustration quand t'as l'impression de rien n'apporter par rapport à l'année d'avant. Moi, j'ai l'impression que cette édition est vachement chouette, mais j'ai pas l'impression d'avoir apporté énormément de nouveautés. Alors, c'est certes, c'est trop cool, bah c'est super que ça recommence, mais il y a aussi cette frustration où quand tout est tellement super, tu veux amener un changement et on te dit « Ah ouais, mais ça, on y avait réfléchi, et en vrai, c'est moins bien.
Ah. » Je pense qu'il y avait un gros enjeu là aussi vos années. Donc le Covid, c'était à la 27e, donc c'était il y a 4-5 ans. Ouais, c'est ça. Mmh. Il a fallu quand même ressortir de ce truc-là. Hein, et ça a été nager dans de la boue parfois. Oui. On va pas se mentir.
Littéralement.
Avec des carnats bénévoles. Enfin, mon année, c'était un carnat bénévole, littéralement. Il y avait zéro public. Et en fait, c'est aussi, je pense, que là, vous êtes en train de redonner. Des appuis solides au Carnat et effectivement je pense que du coup réfléchir les années qui viennent à penser d'autres choses, à penser d'autres formes, ça évoluera.
Il y a un truc qui est là où je pense que je te rejoins Noémie, où ça paraît difficile de faire des nouvelles choses parce que dès que tu as une idée, pas tout le temps, mais il y a quand même régulièrement des idées qui sont lancées et des vieilleux qui sont dans la salle et qui disent « Ah bah ça, nous on l'a fait et en vrai ça a pas marché ». Et c'est pas parce que les vieilleux, ils ont pas réussi que ça va pas marcher.
Ouais, surtout quand c'est des choses qui prennent... Il y a des choses qui peuvent mettre en péril, mais il y en a d'autres, au pire, si ça marche pas, c'est très grave.
Mais souvent, j'ai l'impression qu'il y a un peu une pression qui est mise sur le bureau actuel à chaque fois de « Il faut que ce soit le mieux possible ». Et en fait... Parfois, j'ai l'impression qu'on ne s'autorise pas à l'erreur au Carnat et qu'on se dit il faut que ce soit aussi bien que l'année d'avant, voire mieux. Ouais. Et qu'on ne se laisse pas le temps de se dire mais attends, est-ce que cette journée-là, en fait, on n'a pas envie de la caler ce jour-là parce qu'on trouve que ben, nous, ça nous fait plus kiffer. On a peut-être des arguments qui ne sont pas les meilleurs, mais de toute façon, ce sera notre édition à nous. Donc, en fait, les vieux, ils ont plein de conseils et c'est trop intéressant.
Et de passer par de l'expérimentation, c'est hyper vertueux pour tout le monde aussi.
Bah ouais, de ouf. Et ils ont des idées, mais c'est pas leur année. Enfin, il y a un truc de... À un moment donné, c'est normal que le festival il soit plus entre nos mains quand on n'est plus membre actif. Et du coup, c'est difficile. Hein. On met tous du temps. Et je regarde Cam en disant ça, parce que je sais qu'elle aussi, elle galère. Mais il y a un truc de se dire, OK, ils vont faire des trucs, et c'est pas grave, ils font comme ils veulent. Et nous, on peut leur donner des conseils, mais... On peut pas rager dans notre coin à dire « Ah non, faut pas faire ça !» Parce que en fait, c'est normal que vous essayez et c'est normal que nous, on laisse notre place.
Oui, et puis vous, c'est des périodes de vie que vous vivrez plus et c'est pas aussi toujours hyper agréable à regarder en face.
Bien sûr. Ouais.
C'est que vous serez plus étudiant à pouvoir vivre ça.
À être dans c'est d'autres choses qu'on vivra, mais oui. Mais je pense que le fait de couper le cordon avec le Carnat, je pense que oui, effectivement, c'est plus ou moins difficile en fonction des gens. Déjà de 1 et de 2, je suis plutôt assez d'accord avec toi, Mélène. Je pense qu'il faut plutôt. Moi perso, j'y travaille. Hein. Le fait de, par exemple, de ne pas venir au Réu et tout, de laisser la place aux nouvelles générations, il y a un backup, il y a un soutien qui existe, il faut vous faire confiance. Il faut aussi, je pense que le bureau n'hésite pas à remettre les gens à leur place. Je pense que c'est parfois nécessaire, même si du coup ça te demande une charge supplémentaire et que t'as autre chose à gérer.
Laisser de la place au karma, ça veut aussi dire prendre du temps et de l'énergie pour d'autres choses.
Ouais, aussi. Ouais.
Ça veut pas dire arrêter d'être tout engagé, arrêter le culturel. Au contraire, c'est avoir plein d'outils pour pouvoir en faire ailleurs. Comme vous voyez, comme c'est un tremplin, mais Cam est très épuisé déjà.
Tranquille.
Et quand est-ce que Cam n'est pas épuisé?
Non, mais tranquille là, c'est bon.
Cam,
c'est
parce... plein de choses chouettes.
Non, mais c'est parce que j'ai le dos en compote, c'est pour ça.
Ça, c'est l'âge, ça.
Non, mais tranquille, en vrai, ça va. C'est moins, franchement, c'est moins pire qu'avant la fatigue et tout. Mais oui, mais effectivement, le truc de laisser la place, c'est pas évident. J'ai l'impression qu'entre vieilleux, c'est une discussion, enfin, moi en tout cas, c'est une discussion que je me suis beaucoup posée et que j'ai aussi avec beaucoup de gens. Et c'est compliqué de lâcher, hein, parce que par exemple, l'autre jour, là, il y avait un problème avec les. Moi, cette année, je corrèspe le caca, donc la com qui gère le pipi et le caca des festivaliers, festivalières. Et je vois un message sur la conve du cacanal qui dit « Ah oui, on n'a pas de copeaux de bois. » Et moi, j'ai eu une grosse montée d'adrénaline. J'étais montée d'une frénésie de devoir régler ce problème et de trouver des copeaux de bois. Et donc, le soir, j'en discute avec mes collègues qui me disent « Mais non, mais Camille, c'est pas à toi de t'en occuper. » Et le lendemain, j'avais trouvé 2 mètres cubes de copeaux de bois. Mais en fait, c'était bon, c'était déjà géré. Mais il y a un peu ce truc de...
Et t'en avais quoi de tous ces copeaux de
bah
bois?
Bah non, mais du coup, j'ai envoyé un message à la... J'ai fait partie d'un groupe Facebook des copeaux
de bois. Des copeaux de Lyon.
De bois en France. Mais bref.
Mais je me souviens que tu m'as appelé à 8h et tu m'as dit « Bon, c'est bon, j'ai une solution et tout. » Et je t'en mais pourquoi est-ce qu'elle est autant déterre à trouver des... C'est super gentil, mais je sais pas, je pense qu'elle a d'autres choses à faire, peut-être. Mais bref.
Et... Mais moi, il y a aussi un truc de... ça a été dur le moment où ça a arrêté à la... À une fois que notre édition était, enfin l'édition dans laquelle j'étais le plus engagé était passée, il y a eu un truc difficile et je me souviens, arrête-moi si tu veux pas que j'en parle Camille, mais une conversation qu'on avait eue tous les deux, genre après le karma, et vraiment on était tous les deux à moitié en larmes en mode, mais en fait faut qu'on laisse les autres faire et en fait c'est pas facile et je vais, c'est une discussion qui m'avait marqué un peu, un truc de se dire, pétard, c'est dur aussi pour elle et c'est dur pour nous tous de se dire. Vas-y, on s'en va. Et on a trop envie de rester dans ce milieu parce qu'on y a vécu des trucs trop chouettes. Mais en fait, on peut vivre des trucs trop chouettes ailleurs, quoi.
Mais oui, c'est ça.
Mais je trouve qu'il y a un peu des deux aussi où moi j'ai eu l'impression des fois que des vieilleux disparaissaient. Alors que quand j'étais toute nouvelle au bureau, j'étais en mode mais ça je sais pas faire, ça non plus. J'aimerais un tout petit peu de soutien parce que après c'est peut-être très personnel, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de validation, qu'on me dise que oui, fais ça, c'est
garde
super.
Me au club.
Et j'ai eu un peu l'impression des fois que des vieilleux disparaissaient alors que j'avais besoin qu'elles soient là. Et donc je pense que c'est très difficile, mais qu'il y a un équilibre à trouver entre laisser de la place et être présenteux pour répondre à des questions. Et j'espère que je vais trouver cet équilibre l'année prochaine.
Mais t'aurais aimé qu'il y ait plus de vieilleux cette année
Je sais pas si c'est... Enfin, je pense de l'édition précédente. Vraiment qui avait fait juste l'année d'avant quoi. Il y en avait qui étaient vraiment très présenteux et je suis extrêmement reconnaissante, mais j'ai senti un petit manque, mais c'était vraiment juste au début de mon mandat. Je pense qu'il y a aussi juste le fait d'en avoir ras-le-bol en fait juste après l'édition, de devoir prendre une pause juste parce que c'est tellement
épuisant,
épuisant. Mais c'est ce que j'ai ressenti au début de mon mandat,
Et Cam et Mélène, justement, donc je m'adresse plus à vous, parce que Noémie, t'as encore plein d'années d'étudiantes devant toi. Quand justement vous avez décidé d'être là, bon, ok, on va devenir des vieilleux, on va passer un peu plus à autre chose, même si on est quand même très là, et c'est même hyper agréable en vrai, quand on est encore dans des milieux étudiants, de voir que. L'année dernière, je me rappelle, il y avait des enfants, parce qu'il y avait des vieilleux qui avaient des enfants, et c'est super chouette de ne pas toujours être dans cet entre-soi étudiant, qui sont des périodes de vie particulières. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir aussi ce tremplin et à pas juste faire le gros déni de c'est fini, je ferai plus de bénévolat, plus de militantisme, je serai plus engagée, et d'utiliser tout ça pour faire des choses ailleurs?
Tu veux commencer à répondre?
J'ai pas d'inspi là. Donc je t'en prie.
Alors, c'est une bonne
question.
Tu peux
dire que tu n'y as pas réussi, hein, c'est pas vrai.
Alors, personnellement, pour moi, la redescente après le karma était très dure. Parce que c'était se retrouver seul tout du jour au lendemain. Enfin, pas seul tout. Il y avait les copains et tout, mais c'était
c'est bon, quoi. Le truc, la période un peu idyllique. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Et en même temps, ça a été aussi une délivrance. Bref, la redescente a été dure. Et après, moi, je suis très, très vite partie, en fait, de Lyon pour un échange universitaire. Donc, le Carnat a été mis de côté. Et ça m'a fait du bien, en vrai. Et après, je suis retournée sur l'INSA. Je suis retournée au Carnat et tout. Moi, je pense que c'est un truc dans une période de ma vie où il y a plein de choses qui se sont imbriquées et qui se sont construites. Et du coup, c'était plus facile d'aller vers ça. En fait, je pense que oui, c'est comme couper le cordon avec les études. Enfin, j'ai l'impression qu'à l'INSA, il y a des gens qui ont du mal à couper le cordon. Moi, personnellement, j'en avais marre de mes études et j'avais juste envie de travailler pour gagner de l'argent, pour ne plus être précaire et pour pouvoir faire ma propre vie et faire mes propres choix. Donc moi, perso, j'ai pas eu trop de mal à quitter le milieu étudiant. Après, bon, je suis malgré tout encore ici. Hein. Quitter le Carnat, moi, j'avais l'impression que j'avais encore plein de choses à apprendre et que j'avais encore pas appris suffisamment de choses. Et même encore aujourd'hui, un de mes gros regrets, une de mes grosses frustrations, c'est de ne pas avoir fait technique études.
Il y a une section technique de l'INSA de Lyon pour faire de la technique du spectacle vivant.
Voilà. Mais et je me dis maintenant, c'est trop tard. Et ça, c'est une énorme frustration. Voilà.
Et toi, Mélène, ce passage
Alors, moi, ce
tu
passage.
Ça t'a aidé?
Alors. Ce passage, moi, le fait de quitter le Carnat, ça s'est fait plutôt naturellement. Alors, des fois un peu de manière difficile, mais par le fait, de la même manière que Camille, je suis partie en échange aussi après. Le hasard du calendrier ont fait que je devais partir à ce moment-là. Du coup, ça a été efficace comme méthode pour ne plus venir aux réunions, tout simplement. Alors après, évidemment, je restais en contact avec les gens et j'étais encore là un peu. Au retour de mon échange, j'étais encore à Lyon et j'avais beaucoup de temps, donc je me suis réinvesti dans le Carnat. Et en fait, après, j'ai déménagé de Lyon, tout simplement. Et ça a eu un effet très efficace sur le fait de ne plus être là, tout en étant toujours connecté aux gens avec qui j'avais lié des liens très forts pendant ces années-là, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de passer plus facilement à autre chose et en fait de revenir plus avec un regard extérieur. Alors bien sûr, je dis ça, mais de la même, alors pas de manière aussi intense que Camille avec ses copeaux de bois, mais moi aussi des fois je suis là sur le site.
C'est très intense quand même.
Je suis là sur le site et je vois des trucs qui sont pas, j'allais dire pas bien faits, non c'est pas ça, mais qui sont pas optimales et qui sont que moi j'aurais pas fait ça comme ça. C'est une phrase qu'on entend beaucoup. Et en fait c'est hyper dur. Du coup j'essaye de le faire, mais de se retenir et d'être en mode non en fait c'est pas ton édition, c'est bon, c'est ok, c'est pas grave.
C'est quoi une allégorie de la vie finalement.
Ouais.
Ça.
Mais genre l'autre fois.
Ça nous arrive tout le temps dans la vie.
L'autre fois, j'avais l'impression que les lumières, elles n'étaient pas allumées. J'étais là, genre, mais pourquoi ils sont pas en train d'allumer les lumières maintenant? Et après, j'étais en mode, tais-toi, Mélène, ce n'est pas ton édition. Ils ont peut-être décidé, c'est pas ton problème. Va pas les voir pour leur dire ça.
Je pense que c'est un oubli, mais.
Ouais, mais c'est ok. Et il y a peut-être 50 dieux qui vont venir voir.
Et toi aussi, t'as oublié plein de choses.
Bah, bien sûr. Et après, sur la partie tremplin dont tu passais pour parler, pour s'investir pas mal dans d'autres structures, moi, malheureusement, j'ai de moins en moins. Pas tant de milieux militants dont je fais partie aujourd'hui. J'ai fait le choix, je sais pas s'il est intelligent ou pas, de partir vivre à Aix-en-Provence, qui est une ville qui est pas autant.
Qui est pas connue pour son engagement.
En tout cas, qui est pas connue pour son engagement à gauche, on va dire. Et que j'ai aussi donné beaucoup de temps à mon travail, qui est quelque chose que je remets en question maintenant, mais ben, malheureusement, quand tu commences la vie active et que. Tu commences en plus, donc j'ai commencé un métier de régisseur général et donc qui reste un statut qui peut être précaire parce que donc j'ai dû créer avoir mon statut d'intermittent. Et il y a un enjeu de tout donner pour le travail et ne pas prendre d'autre temps que ça parce qu'il faut tout faire, il faut être l'élève parfait. Moi j'ai plutôt ce syndrome de l'élève parfait et de il faut tout bien faire comme ça les gens ils vont bien m'aimer et après je vais avoir du travail. Et donc j'ai pas pris le temps de faire d'autres trucs, ce qui fait que mon pied dans le. Enfin, oui, c'est ça, mon pied dans le militantisme c'est encore le Carnat. Je pense que je vais y retourner. Je sais pas encore quand, ni comment, ni.
Tu vas réussir à rentrer dans un local, tu veux dire ?
Ouais, c'est pas facile, mais je pense que je vais trouver la force de pousser la porte.
Tu vas trouver une main qui pourra t'accompagner.
Exactement. Mais justement, c'est un truc qui me manque, et ça fait plusieurs années que je me dis que ça me manque. Donc ça a été efficace pour passer à autre chose par rapport au Carnat, et donc laisser la place aux autres. Mais par contre, ça a été difficile. Là, du coup, c'est encore difficile de trouver les espaces dans lesquels je suis aussi bien qu'au Carna. Après, évidemment, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte, de l'anxiété sociale, plein de trucs. Hein. Je vais pas m'éparpiller
c'est
sur tout ça.
C'est un endroit où tu as aussi des amis. Forcément, oui. Ça rend la chose.
Bah, du coup,
plus
c'est hyper facile de venir au Carna, en fait. Et encore, je dis c'est facile. Ça reste. C'est pas parce qu'on est vieilleux que tout se passe comme. Tout n'est pas un long fleuve tranquille. Et des fois, on est stressé aussi quand on est vieux. Mais ouais, du coup, j'ai pas tant eu ce sentiment de tremplin pour l'instant. J'ai le sentiment d'avoir plus de clés de ces milieux-là pour en faire partie plus facilement, mais par contre, de pas en faire intégralement partie aujourd'hui. Voilà.
Est-ce que vous avez un truc à rajouter ?
Ben non, mais je suis assez.
On approche de la fin.
Ah merde.
Oh pétard. Okay.
On approche dangereusement de la fin.
Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, en fait, sur cette histoire de tremplin et tout. Je pense que moi, personnellement, le Carna, ça m'a permis, ça m'a ouvert les yeux sur la débrouille, sur. Et c'est aussi un réseau, je pense. C'est aussi beaucoup un réseau, en réalité. Ouais. Réseau de gens qui font plein de trucs hyper stylés, hyper swag. Voilà. Mais après, ouais, je sais pas, je pense que ça fait partie aussi de la vie de chacun, chacune. Et il y a des personnes qui viennent au Carna et après qui en entendent plus jamais parler, quoi. Enfin, je pense que c'est des parcours très personnels aussi, mais. Ouais. En tout cas, c'est une bonne manière. Pour commencer à mettre un pied dans un truc un peu engagé.
Puis ça donne de l'espoir et du pouvoir dans sa capacité de faire des choses avec d'autres.
Oui. Aussi, oui, bien sûr.
Je vous ai demandé à chacun, comme on fait dans chaque épisode du Tourbillon, de nous donner une. Et là, tout le monde est en train de prendre sa tête entre ses mains et de détester ma question, mais c'est pas grave. De nous donner une recommandation culturelle autour de la jeunesse. Et si vous n'en avez pas toutes et tous, ce n'est pas très grave. Vraiment, il n'y a aucun souci.
Alors moi je vais raconter un tout petit peu ma vie rapidement, mais je suis rentrée avec du défilé et je me suis dit bon ça s'est super bien passé, je vais aller me poser dans l'herbe, faire une sieste et je vais pouvoir réfléchir à cette question de recommandation culturelle.
Mais tu l'as eu longtemps à l'avance toi la question
parce moi j'ai le droit et du coup j'étais en mode c'est super, comme ça j'aurai une réponse. Et là on m'a dit ah tu peux aller faire ce run là-bas et après je suis arrivée et il y avait 1000 galères et du coup je n'ai pas pu y réfléchir, j'ai juste réfléchi à quelque chose. Moi, je voulais que ce soit un dessin animé. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est plus facile de se plonger dans un questionnement quand tu vois un truc. Le message, au final, est assez simple, mais ça te rappelle aussi ce que tu. Je trouve que tu redeviens un peu un enfant forcément quand tu regardes un dessin animé. Et du coup, le message est beaucoup plus clair. Et moi, je trouve que les dessins animés, c'est génial. Sauf que là, j'en ai. Pas trouvé à recommander.
Parce que t'as eu un taf de présidente où t'as eu beaucoup de choses à faire dans les dernières
voilà.
heures.
Voilà, donc je saurais pas dire quel dessin animé regarder qui donne envie de faire du militantisme, à part les classiques de Princesse Mononoke ou ce genre de choses qui, moi, m'ont beaucoup marqué.
T'as une reco ou pas, Mélène ?
Moi, j'ai réussi à trouver et pourtant la
et
question
pourtant,
a pas
Mélène,
été.
Mélène, je vais demander il y a 1h15. Oh,
wow. Et ouais, c'est à peu près ça.
On s'est perdu de vue pendant plusieurs jours pour pouvoir organiser tout ça.
Et après, j'étais en mode ah, il faut que je réfléchisse à quelque chose, là, comment je vais faire ? Et j'ai trouvé une recommandation. Alors, c'est pas une recommandation d'un truc à aller regarder ou quoi, c'est plutôt un. Je vais parler d'un festival auquel j'ai participé il y a pas longtemps et je trouve la démarche hyper stylée. Qui s'appelle le Festival Mondial du Cirque de Demain. C'est un festival donc, de cirque qui est organisé tous les ans dans le chapiteau du Cirque Phoenix à Paris, à Vincennes pour être plus précis. Donc c'est un festival mondial. Donc il y a des artistes du monde entier qui postulent pour pouvoir y participer. Et en gros, le concept donc, des artistes de cirque, c'est qu'il faut avoir moins de 25 ans pour y participer parce que l'idée... c'est que ce soit des nouveaux artistes et que en gros c'est aussi un tremplin pour eux et pour elles de rentrer dans ce milieu artistique qui peut être un peu difficile d'accès aussi et de réussir à se faire programmer derrière de commencer à faire que ce soit leur métier. Donc moi j'y étais là au mois de janvier cette année, c'était trop chouette, j'ai découvert plein d'artistes hyper stylés donc je pense que j'aurais jamais entendu le nom autrement que là-bas. Et voilà, je trouve ça trop chouette. Ça permet d'avoir une visibilité sur des trucs qui sont nouveaux. Le cirque, pour moi, c'est un art qui est un peu particulier parce que, en vrai, techniquement parlant, ça va déjà hyper loin et donc on va avoir du mal à aller plus loin. Et du coup, c'est maintenant que c'est l'artistique qui prend de ouf le relais Et c'est ce que j'ai vu là pendant ce festival de cette année, c'était que ils avaient des niveaux de fou malade, c'était impressionnant, mais ils avaient surtout cette dimension en plus de faire passer des messages, et notamment un des numéros qui a gagné beaucoup de prix, parce que donc il y a des prix qui sont remis à la fin, c'était trop trop beau ce qu'ils ont raconté. C'est des aériens, mais donc il y avait du cerceau, du fil, de la capillotraction, ils étaient trois et ils mélangeaient leurs trois arts en même temps, et c'était trop beau. Qui s'appelle le trio Rigumen, si jamais ça intéresse des gens. Ils sont trop stylés et trop forts. Voilà, donc c'est le festival que je recommande, et particulièrement le trio Rigumen, qui sont trop forts, juste en fait. Voilà, c'est ça.
Merci, ça fait un peu penser à Cérumen.
Je suis désolée, mais... Allez, on leur dira.
Moi, ma reco culturelle, c'est très original. Je pense que c'est le Carna, en vrai.
Allez, en vrai, ça tire les pompes du bureau.
Inception, super.
Oh, popo.
Non, j'ai aucune. J'avais vraiment zéro inspiration.
Et tu peux même aller plus loin en disant le Carna, mais venez à la fête de la musique.
Oui, la fête de la musique. Non, en vrai, reco culturelle et jeunesse, le carnaval, parce que moi, je suis plus dans les gens qui font que. Donc, qui font. De la technique, qui font des trucs comme ça, genre qui font de la bouffe, enfin tout ça, que des gens qui vont être sur scène. Moi, je suis plus dans les gens de l'ombre, et du coup, je dirais le Carna pour s'engager et pour faire des trucs avec les gens, les trucs de l'ombre qui sont en réalité les gens qui shine le plus, les plus stylés, parce que voir des techs accrocher des projos, c'est extrêmement sexy et stylé.
Surtout quand ils le font avec des paillettes.
Exactement, voilà.
Donc venez accrocher de la moquette dans le chapiteau, comme ça vous pouvez voir des techs en haut avec des baudriers en train de monter à des échelles.
En train de mettre des choux.
Non, faut pas dire ça, il n'y a pas le droit. Ça, y a pas le droit.
Et on va s'arrêter là-dessus. Allez, avant de donner tous les secrets du festival. Merci à toutes et tous, c'était super chouette. Je vais remercier très très fort déjà le Carnaval Solidaire et Adrien et Jean-Claude de nous permettre d'avoir du matériel, un espace pour faire de la radio. Et je remercie évidemment extrêmement fort Elio qui nous écoute tout le temps et travaille notre voix parce que je ne sais pas gérer les micros. Donc merci à Elio.
Merci.
Et je fais aussi un énorme remerciement à mon ami Lolé qui est exilé au Canada dans le froid et la neige et qui m'a aidé, qui a trouvé les trois quarts des interrogations que j'ai trouvées aujourd'hui. Donc on la remercie très très fort. On attend très très vite qu'elle revienne et qu'elle puisse venir à la fête de la musique. C'est une invitation officielle. Et bah merci à tous et tous.
Merci à toi.
Merci.
Merci Marwa.
C'était super.
Vous venez d'écouter un épisode du Tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. La réalisation est effectuée en binôme avec Elio, qui se charge également de la partie technique. Le graphisme est effectué par Emile et le développement web par Zadig. Nous remercions très fort tous nos amis qui, par leur soutien, nous donnent envie de réaliser chaque jour de nouveaux épisodes pour porter à vos oreilles de nouvelles voix, de nouvelles envies, de nouveaux possibles. À très vite pour un nouveau Tourbillon.